Alors rapidement, je vous présente. Moi, où j'en suis. Enfin, plutôt. Oui, je voulais dire plutôt nous, où nous en sommes. Non, mais alors elle me reprend avant que j'ai fini de ma phrase. Puisqu'en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu des nouvelles du modèle Totopi dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Donc c'est un modèle qui avait été développé initialement pour travailler sur les données topographiques de la ville de Tours. Et en fait, ce modèle, cette application Totopi, en fait, il y a eu des réflexions qui ont été menées dessus pour travailler plus largement sur les dynamiques des villes. Et donc il y a un modèle, c'est le modèle OFET, qui a été formalisé pour essayer de travailler spécifiquement sur les dynamiques, mais aussi sur, ça permet d'éditer en fait des états de ville, mais aussi de travailler sur les changements d'état. Donc là, pour illustrer ce que je viens de dire, c'est l'application qui a été faite à partir des données archéologiques à Albi, où vous avez différentes cartes qui représentent à différentes époques un point qui indique que là, on a une occupation. Bon, derrière chaque point, dans le SIG, il y a des informations sur la nature de l'occupation. La dernière carte, pour la période moderne, par exemple, on peut distinguer, puisque c'est dans la table qui est associée à la cartographie, indiquer si c'est de l'habitat, du religieux, etc. Bien sûr, on peut faire là, c'est des cartes sur l'Antiquité, le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge, mais bien sûr, on peut faire des découpages chronologiques comme on veut, puisque les datations sont données à l'année. Donc le modèle, il repose sur quelque chose dont on a déjà parlé aussi tout à l'heure, c'est rien d'extraordinaire, mais ça résume bien la manière dont l'information est modélisée par trois éléments principaux, une localisation, une datation, une interprétation. C'est des choses fonctionnelles, de base. Donc c'est repris de la triade de Pioquet, qui est la modélisation de cette information. Et si on compare des éléments, on peut arriver à identifier les processus de changement d'état, et c'est bien ça qui nous intéresse. Donc ici, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous montrer les actualités de ce qu'on fait. On pourra revenir sur ces points-là si nécessaire. Donc ça, c'est le modèle. Vous retrouvez les trois éléments principaux, la fonction, l'espace et le temps, et puis les différentes analyses croisées qu'on peut tirer de ça. Ce modèle, donc, il a été appliqué essentiellement pour la ville de Tours à deux échelles, à l'échelle de tout l'espace urbain et puis à l'échelle d'un quartier. Ça, c'est ce que j'avais développé dans ma thèse, ce qui nécessite de redéfinir des éléments de datation, de redéfinir des éléments d'interprétation, puisqu'on ne regarde pas les mêmes choses à l'échelle de la ville et à l'échelle d'un quartier. Je l'ai aussi testé pour Albi, avec des données assez décevantes, parce qu'en fait, avec un résultat assez décevant, parce qu'il n'y avait pas assez de données, tout simplement. Donc en fait, on n'arrive pas à voir grand-chose. Et puis, c'est en cours de test sur une petite ville de Vendôme, par un doctorant à l'université de Tours. Donc c'est un... Donc il y a plusieurs personnes qui travaillent autour de ça. Donc il y a Laure Salini, il y a Xavier Rodier, il y a donc Gaël Simon, donc, ce doctorant qui travaille sur Vendôme, et puis moi-même. Alors quelques éléments pour vous montrer les résultats qu'on avait obtenus et puis vers où j'aimerais aller maintenant avec ce modèle. Alors il y a des choses qu'on avait réussi à faire grâce à ce modèle, c'est faire différentes sorties. Par exemple, on veut, à partir de toutes les informations qui ont été modélisées selon ces trois dimensions, on veut avoir des informations sur le fonctionnement fonctionno-temporel, c'est-à-dire comment les fonctions sont distribuées dans le temps. C'est ça que ça veut dire. On peut obtenir, grâce au modèle, si on l'interroge, un graphique. Vous avez la représentation du temps en abscisse, et puis chaque couleur représente une fonction. Bon, là, il y en a beaucoup, c'est pas très bien, c'est pas très lisible. C'est pour vous donner l'image, en fait, de ce qu'on peut obtenir. Après, il faut faire de l'interprétation, et l'interprétation, c'est comme quand on lit une carte, c'est l'interprétation empirique, où on remarque qu'il y a telle et telle chose. On n'a pas d'outils qui nous permettent d'interroger ce type de graphique. On peut faire de l'analyse spatiale. Cette fois-ci, on ne croise pas deux axes, on cherche juste ce qui se passe dans l'espace. Donc on peut faire des sélections sur une portion d'espace, sur une portion d'espace dans le temps, sur une fonction dans le temps, mais à chaque fois, c'est sur un... Qu'est-ce qui se passe dans un espace? Et grâce au modèle, on peut savoir, et la déconstruction des éléments selon ces trois fonctions, on peut savoir quels sont les secteurs de l'espace qui sont le plus souvent sollicités pour être recomposés, pour créer de nouvelles choses. Donc, une carte comme ça, c'est vraiment une carte qui montre eh bien, les dynamiques. Parce que ça, ce n'est pas une carte qu'on peut dire, c'est la carte à tel moment. C'est une carte qui synthétise toutes les transformations entre un moment de début et un moment de fin. Plus c'est foncé, plus il y a des recompositions de l'espace. Alors, des cartes comme ça, ça montre surtout qu'il y a, il y a certains secteurs qui sont bien documentés et d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est pas à prendre argent comptant. Ça dépend énormément de la documentation, des données qu'on a mis en entrée, évidemment. Pour terminer le tableau, hein, et surtout pour montrer les orientations qu'on veut donner actuellement principalement à ce modèle, là vers où on pense qu'il faut aller, parce qu'en termes d'analyse spatiale, on a les SIG, en termes d'analyse fonctionnelle, ça ne demande pas d'opérations très complexes. C'est plus sur l'analyse temporelle, je pense, que nous, on a envie de faire les recherches actuellement. Donc là, vous avez une distribution temporelle en abscisse, et puis en ordonnée, vous avez un nombre. Donc on peut regarder sur un espace urbain, que vous avez, donc c'est toute la ville de Tours que vous avez ici, comment sont distribués les objets qu'on a étudiés. On voit que ce n'est pas linéaire, on n'a pas moins d'objets au début et plus à la fin. Oui, ça même, c'est plutôt évident. Parce qu'on n'a pas d'abord une maison, puis après une autre maison, on pourra avoir plein de maisons maintenant. Ce n'est pas un développement linéaire. Donc il faut arriver à interpréter ces éléments-là. Donc, c'est beaucoup d'effets de source, par exemple la création de la ville ici. Enfin, ça c'est pas vraiment un effet de source, plutôt. Pardon, justement, non. Ça c'est un des vrais résultats, voilà, qu'on peut avoir ici. On a des points, vous voyez, qui sont peu nombreux, puis d'un seul coup, on en a beaucoup plus ici. Ça, c'est pas un effet de source, justement, c'est la création de la ville. Par contre, on a aussi des effets de source. Par exemple, l'augmentation que vous avez ici, c'est l'aménagement du rempart du Bas-Empire. Comme il y a le rempart du Bas-Empire, il y a des courtines, des tours, des fossés qui sont bien documentés, et d'un seul coup, il y en a plein d'objets. C'est pas qu'il n'y avait pas d'objets avant, mais voilà, ça c'est typiquement un effet de source, comme aussi le fait qu'on a introduit dans ce système l'étude des maisons du Moyen-Âge central. Donc forcément, on a plein de choses qui se passent ici, c'est parce qu'on a introduit ça, et que les maisons au Moyen-Âge central, en pierre, on les a à partir du XIIe siècle, on les a difficilement avant. Par contre, il y a des sources qui sont introduites dedans et qui ne ressortent pas, comme par exemple le corpus de texte de Théotolon ou de Grégoire de Tours qui n'apparaissent pas parce qu'on est sans doute à des échelles qui ne sont pas exactement les mêmes et qui n'ont pas permis d'être visibles ici. On peut avoir aussi des résultats vraiment, des vrais résultats historiques. Ça, c'est fait à l'échelle du quartier, donc c'est issu de ce que j'ai fait dans ma thèse, où on voit qu'il y a des concentrations de points. Vous voyez, ici, là et là, en 1, 2, 3, et dans une moindre mesure, en bas de la forme 4. Et on s'aperçoit qu'il y a des pas d'un siècle, un siècle et demi, entre chacun de ces regroupements. Et là, en fait, a été enregistré le bâti, les maisons. Et les maisons, on pourrait considérer que, comme il y en a beaucoup qui ont été mises en place à ce moment-là, alors qu'on sait qu'il n'y en avait pas ou beaucoup moins avant, et bien l'hypothèse, hein, c'est de dire qu'elles ont peut-être été rendues obsolètes ou vieillies, à peu près tout en même temps, ce qui a nécessité de les remettre au goût du jour à ce moment-là, et puis à nouveau, à ce moment-là. Ça montre aussi des phases de besoin de réaménager des logis hein, pour les mettre au goût du jour. Donc là, c'est vraiment de l'interprétation, c'est fragile comme élément, mais voilà ce qu'on pourrait en tirer. On a aussi essayé d'aller dans le sens d'une synthèse temporelle, parce qu'on sait qu'il existe la cartographie qui permet de représenter des choses dans l'espace. Mais il n'existe pas de chronographie, de représentation temporelle d'une synthèse d'éléments. Parce que sur une carte, il n'y a pas une information, il y a plein d'informations. Essayer de trouver le pendant temporel. Alors, c'est moyennement satisfaisant, parce que c'est quand même plus difficile à lire de prime abord qu'une carte, peut-être parce qu'on a moins l'habitude. Enfin, c'était une proposition pour essayer d'aller dans cette direction. Là, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire. Ah oui, c'était pour dire qu'on changeait d'échelle. Alors là, on s'éloigne un peu du modèle. Ça, c'est un autre travail que j'ai fait. Parce que je me suis dit, bon, on travaille toujours sur Tours à deux échelles, même si je vous ai dit qu'il y avait sur Albi, sur Vendôme. On n'a pas trop de points de comparaison. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est pouvoir comparer ce qu'on a obtenu sur Tours, voir si l'effet de source est tellement prégnant que de toute façon, on ne peut pas aller bien loin, ou si on arrive à retrouver des choses communes à un certain nombre de villes. Donc là, j'ai fait un travail un peu différent, donc en laissant un peu de côté le modèle, mais en gardant les mêmes arrière-pensées, à partir d'une collection de villes. Et comme collection de villes, j'ai pris la collection, on a déjà parlé, des atlas historiques des villes de France. Gros corpus, 49 villes, que j'ai que j'ai regardé pour la périodisation qui était proposée par les auteurs, puisqu'on dans ces atlas, bon, il y a la carte, mais il y a aussi une notice qui dit la ville du 3e siècle au 5e siècle, la ville du 5e au 10e, pourquoi le 5e, pourquoi le 10e. Je me suis interrogé là-dessus, et puis j'ai synthétisé toutes ces ruptures, en fait, toutes ces ruptures de phase. Donc sur la cinquantaine de villes, on obtient ça. Donc on voit qu'il y a certains moments qui, sur la synthèse, sur le corpus global, sont a priori plus souvent des points de rupture. Maintenant, il faut les interpréter également. Et en fait, quand on les interprète, on s'aperçoit, bon, il y a un certain nombre, enfin, il y a une partie qui s'explique par la recherche même et par des habitudes en fait de chercheurs. Par exemple, je me suis aperçu que la révolution, c'est systématiquement une rupture, alors que les auteurs disent parfois que ça n'a pas eu d'incidence sur la ville, mais c'est pris parce que c'est un jalon, quelque chose qu'on peut facilement repérer comme l'an 1000. Voilà, on repère bien l'an 1000 parce que c'est, alors que ça n'a pas forcément une incidence. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on, si on essaye de non plus de voir ces ruptures de manière globale, comme une seule chose, mais qu'on essaie de voir les raisons de ces ruptures, et bien qu'on n'a pas du tout les mêmes profils temporels, hein, selon ces différents éléments. Donc ici, par exemple, vous avez les enceintes, construction, destruction, qui sont souvent appelées comme des éléments de rupture dans la chronologie, la démographie, des moments de croissance, de décroissance, d'économie aussi, croissance ou décroissance, et puis des guerres ou l'apparition de nouveaux régimes, quand la ville elle passe de l'un à l'autre. Et bien on s'aperçoit qu'on a des profils qui sont complètement différents. Et ça montre que la chronologie, la temporalité d'une ville ne peut pas se prendre comme un tout, comme un bloc, et qu'en fait, on a affaire, rien neuf hein, en fait, mais à des multitemporalités qui jouent les unes avec les autres, qui ont des incidences les unes avec les autres, qui ont des effets de décalage aussi dans le temps, et c'est vers ça que j'aimerais continuer de réfléchir avec Xavier et avec Laure. Donc, un des problèmes principaux, j'en ai plein de problèmes, on en a plein à manipuler ces données, les mêmes que vous, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on en discute, parce que je suis sûr qu'en réunissant nos forces, on peut arriver à trouver des solutions, peut-être pas résoudre complètement ces problèmes, mais au moins trouver des astuces ou des éléments. En tout cas, il y a un problème un peu plus technique, c'est que le modèle, au fait, sa mise en œuvre, même sur des villes où on a des données, des corpus documentaires importants, c'est lourd à mettre en œuvre. Et pour l'appliquer, pour l'utiliser dans d'autres villes, il faut mettre en place un prototype pour travailler sur une. Mais Laure va en parler parce que c'est surtout elle qui aborde cet aspect-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir automatiser les déconstructions temporelles, spatiales, fonctionnelles et recombiner les éléments pour pouvoir faire toutes les analyses que je vous ai présentées tout à l'heure et les confronter.
Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je pense que ce n'est pas le propos de rentrer dans l'outil. Et puis il ne plus pas trop de revenir sur le modèle parce qu'il a été publié déjà un certain nombre de fois. Mais le modèle se fonde sur la notion de l'objet historique, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, on est vraiment là dans l'analyse, c'est-à-dire que c'est M. Deland qui disait faire un SIG, il faut déjà connaître la ville, et c'est ça, on ne peut pas dans un SIG d'analyse, construire un SIG pour de l'analyse si on ne connaît pas sa donnée, si on ne connaît pas les éléments. Voici ce que vous avez fait à Bordeaux, voilà. Donc là, nous, on est dans un système pour l'analyse en vue. Donc notre question, c'était comment traiter le temps. On assujettit tout le temps le temps à l'espace, et en fait, maintenant, c'est l'inverse. On veut assujettir l'espace au temps. Donc on a fait des propositions pour structurer cette information. Alors, le mode de structuration est assez complexe et pas banal. Donc là, je vais vous renvoyer aux publications, si je ne vais pas revenir dessus. Toujours est-il que pour arriver à cette gestion de la donnée, donc l'objet historique qui est au cœur et qui va être le produit final. Donc en entrée, on a ce que vous avez identifié, ce que vous avez interprété, qui va subir un certain nombre de processus pour obtenir l'objet historique qui va nous permettre de faire ces analyses, les propositions d'analyse que Bastien nous a proposées. Et cet objet historique va être composé d'entités fonctionnelles, spatiales et temporelles, mais qui ne sont pas gérées comme on a l'habitude de le faire de manière traditionnelle dans les outils. Notre problème, c'est que les logiciels qu'on utilise à l'heure actuelle ne nous permettent pas de faire ça, ou de manière très en bricolant. Donc on est obligé maintenant de passer à la création d'un outil dédié. Voilà. Donc on est en train de travailler dessus. Là, le schéma, c'est pour vous montrer le processus à mettre en œuvre intellectuel pour arriver à ça. Donc vous avez vos données, vos observations, vous avez pu poser des hypothèses, dire ça, à tel endroit, j'ai un logis, j'ai une église qui date de temps en temps. Donc intégrer vos données. On arrive à une première phase où là, en fait, il va y avoir un choix de l'échelle d'analyse. Votre objet n'est pas le même, si vous êtes à l'échelle de l'îlot ou à l'échelle de la ville. Donc là, il va falloir paramétrer une échelle d'analyse. Et cette échelle d'analyse conditionnera la manière dont la fonction sera gérée, l'espace sera géré et le temps sera géré. Si on est à l'échelle d'une fouille, par exemple, on sera sur la chronologie relative. Si on est à l'échelle de la ville, on sera sur des datations et certainement sur des patterns un peu plus datés. Et donc, on va produire une phase intermédiaire qui sera transparente, l'observation, et après, bon, toutes les règles de déconstruction, il va falloir mettre des règles de validité, etc. Et là, à l'heure actuelle, le mode de gestion ne nous permet pas de réinjecter des mises à jour, des nouveautés ou des nouvelles hypothèses, puisqu'on ne sait pas gérer ces relations entre toutes ces entités. Ce qu'on voudrait, c'est avoir, si vous voulez, une création à la volée de ces objets historiques selon N hypothèses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une emprise, un objet, vous pouvez qualifier, d'une église qui va commencer au 9e et qui se termine au 11e, mais peut-être que cette église, ça va être un objet historique si vous la datez du 9e au 12e. Pour nous, c'est deux objets historiques différents, parce que la datation change. Mais ce choix d'hypothèse, il faut qu'on puisse le gérer. Donc là, vos observations avec vos N hypothèses, et en fonction du choix d'une hypothèse, d'une échelle d'analyse, pouvoir remoliner et obtenir les différents objets historiques, et derrière, mettre en œuvre les analyses proposées par Bastien et voir si les diagrammes et autres modifient. Voilà.
En fait, c'est que pour déconstruire toutes les observations, par exemple, on reconnaît qu'il y a un état 1 de l'église qui est de telle manière, pour l'intégrer dans le système et pouvoir l'analyser avec le reste, on est obligé de déconstruire des informations temporelles, spatiales et puis fonctionnelles. Tout ça, c'est très 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 lourd à mettre en place parce qu'il faut construire un très grand nombre de relations. Et ce qu'a souligné alors, c'est que si à un moment on s'aperçoit qu'on s'est trompé ou qu'on a une précision nouvelle des choses, on est obligé de revoir tout l'ensemble des relations parce que c'est un jeu de dominos et c'est très 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 compliqué. Et c'est un des problèmes majeurs que devrait résoudre ce.
Ouais. Alors, bon, nous, on passe du temps là-dessus parce que notre objectif final, c'est vraiment de produire des analyses et de manière automatique pour justement proposer ça sur une série de villes, pour pouvoir comparer ces trajectoires de villes dans le temps. Parce que le but, ce n'est pas de travailler sur une ville, c'est de voir comment et de comparer ces rythmes, ces diagrammes entre villes.
Voilà. Quand tu parles de déconstruire des relations, ça veut dire que, par exemple, pour un objet historique, tu as une relation entre un certain temps, un certain espace et une certaine fonction. C'est ces relations-là
pour, à l'échelle sur en fait, un objet historique, c'est un certain nombre de...
L'entité spatiale, en fait, la déconstruction, le principe, c'est que l'entité spatiale, quand il y avait la carte de Bastien qui montrait l'usage de l'espace, c'est qu'en fait, l'entité spatiale... pris individuellement n'a aucun sens historique puisqu'on va avoir un découpage de l'espace en fonction de l'accumulation des interprétations dans les objets historiques qu'il y aura sur cet espace-là. Et donc, toutes ces portions d'espace qui sont découpées donc, en fonction de la connaissance, il faut à un moment donné, il faut bien les recomposer pour reformer l'objet historique.
Oui, parce qu'on
donc
part...
ça se découpe à chaque fois qu'on a une nouvelle hypothèse.
Parce qu'on part d'un continuum spatial qui est unique. Et on va le découper pour pouvoir combiner tous les objets historiques dont on a besoin. Alors, ce n'est pas vraiment un continuum, mais on a des fonctions. Et quand on va associer un certain nombre des éléments de ce continuum temps, de ce continuum spatial et une fonction, on va créer un objet historique. Donc, on n'a jamais, très très concrètement, dans le SIG qu'on met en place, on n'a pas de superposition, on n'a pas de forme qui se superpose. On n'a qu'un seul espace, qu'on découpe au fur et à mesure des besoins. Et si on a un nouvel objet, il faut faire des nouveaux découpages. Et si on fait des nouveaux découpages, au lieu d'avoir une seule entité spatiale, on va en avoir deux. Donc au lieu d'avoir une seule relation, enfin, une relation entre cette entité spatiale et un certain nombre d'objets, il va falloir tout découper en deux. Enfin, vous imaginez, c'est exponentiel, c'est très compliqué. Mais c'est grâce à ces façons un peu compliquées d'aborder les choses qu'on peut obtenir ce genre d'approche ou la carte du voilà, ou une approche comme ça qui est vraiment une carte de dynamique qui pointe les choses qui changent et c'est pas simplement la soustraction d'un état et d'un autre. C'est plus que ça, parce que ça prend en compte tout ce qui peut changer en plus et moins entre ces états-là.
En fait, ces images-là, on peut considérer que plus il y a de morcellement, plus il y a de transformation.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et après, faut voir dans le type de transformation. Donc, dans le jeu de relations, voir si ces transformations relèvent du changement de fonction. Ou pas, et puis quel type de changement de fonction, par exemple. Donc c'est bien là où l'idée n'est pas d'observer, mais aussi de comprendre les processus qui sont derrière.